Monsieur Potter au travers de la gorge.
Ah, vous saurez qu'il y a des anciens anglo-montréalais sur Twitter qui disent que c'est exactement un portrait très exact de la réalité. Peut-être qu'on vit dans un Montréal qui n'est pas celui de beaucoup de nos compatriotes anglophones.
Non, mais c'est un centre d'études. On vient à cette déclaration, de, à ce papier de M. Potter dans McLean accuse les Québécois de tous les maux autour de cet événement.
Un profond malaise social. Il faut se chercher plus d'amis, semble-t-il.
Est-ce que M. Potter sait que 17 ans après son adoption, en fait, qu'il y a un débat sur l'indépendance ici au Québec? Est-ce que tu es au courant de ça?
J'imagine que oui, quoique ce n'est pas l'endroit où le débat est le plus chaud sur la planète dans le moment, mais tout de même, hier, au 15e étage du palais de justice de Montréal, la loi 99, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est une loi qui avait été adoptée à Québec sous Lucien Bouchard en réponse à la loi fédérale sur la clarté de Stéphane Dion.
Donc, c'est à peu près 90
2000? Ça fait 17 ans. Alors, 2000. Et en gros, ce que ça dit, c'est que le Québec, l'Assemblée nationale est libre de décider des conditions d'accession du Québec à l'indépendance. Il y a l'ancien du Parti Égalité, Keith Anderson, qui, l'année suivante, donc il y a 16 ans, a décidé de contester cette loi devant les tribunaux. Croyez-le ou non, ça a pris 16 ans pour qu'on commence à entendre la cause, entre autres parce que les 7 premières années, il a dû argumenter son droit d'amener cette cause devant les tribunaux. Et ça a été reporté tellement souvent qu'hier matin, je suis allée au palais de justice pour m'assurer qu'il y avait bien un juge et que ça se passait vraiment. Parce que d'une fois à l'autre, l'automne dernier, ça devait commencer, ça avait été reporté et encore reporté. Donc, cette cause qui commence, qui est une contestation et où le gouvernement du Québec défend la loi, parce que le gouvernement du Québec a comme mandat de défendre les lois québécoises, et même si le Parti libéral avait voté contre la loi 99 à l'époque, c'est une loi québécoise qui fait partie du bagage législatif du Québec. Le gouvernement de Stephen Harper a décidé en 2013 d'intervenir dans cette cause, à l'appui de M. Anderson et des gens
Anderson
qui contestent la loi.
Qui poursuivait ou en fait qui contestait cette loi lui seul,
oui,
mais aidé par les conservateurs.
Et en 2013, donc une dizaine d'années après que M. Anderson ait entrepris ses démarches, le gouvernement de Stephen Harper décide d'intervenir et demande, lui, dans cette cause-là, qu'on déclare la loi 99 inopérante, parce qu'en contradiction avec la Constitution et aussi avec la loi fédérale sur la clarté. Je vous prédirais d'avance que c'est le genre de cause qui risque de se rendre jusqu'à la Cour suprême.
Et là, on est en première instance.
Première instance.
17 ans après.
Alors, 17 ans après. Alors, à ce rythme-là, on ne sera pas là, vous
Jordan
et moi, avant qu'on... Oui, mais la liberté de personne est en cause.
Ouais.
La plupart des experts ne donnent pas nécessairement des grosses chances à la loi 99 de survivre à un test constitutionnel et juridique. C'est une loi qui avait plus des aspects de proclamation politique ou une saveur plus politique que législative, et ce serait probablement étonnant qu'elle ne soit pas en contradiction effectivement avec l'arrêt de la Cour suprême sur le droit à la sécession du Québec, la Constitution du Canada, la loi sur la clarté.
Mais me rappeler, donc, ça dit quoi essentiellement?
Ça dit en gros que c'est à l'Assemblée nationale de décider des modalités de l'accession du Québec à un référendum. Vous savez, la loi sur la clarté dit que le fédéral, avant de reconnaître qu'un référendum a une réponse positive ou négative, doit être d'accord sur la question, entre autres. Et il y a ce flou artistique sur ce qui constitue une majorité claire, parce que la Cour suprême a dit, devant une majorité claire, le Canada serait tenu tout de même d'aller à la table de négociation du départ du Québec du reste du Canada, mais majorité claire, alors il y a les uns qui disent ça ne veut pas dire majorité simple, puisque la Cour aurait pu utiliser ce mot-là, donc pas 50% plus 1. Et là, il y a cet immense débat sur est-ce que même un oui à 50% plus 1 serait juridiquement une expression de la volonté du peuple québécois.
Mais il me semble, sans vouloir prendre parti, il me semble que cette déclaration de la loi québécoise, ça me semble, à première vue, conforme au droit sur la reconnaissance de l'autodétermination des peuples
bon,
sur la planète entière. Là,
alors là, je vous amène à un débat, parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu académique, on ne s'en va pas en référendum demain matin.
Ouais.
C'est un débat qui s'est produit pendant la dernière campagne fédérale, qui avait opposé M. Mulcair à M. Trudeau sur le 50 % plus 1, M. Trudeau étant pas de l'école du 50 % plus 1. Stephen Harper, même si son gouvernement est intervenu... Oui, Justin.
On est là-dedans, là.
Stephen Harper, même si son gouvernement est intervenu, a défendu comme critique réformiste après le dernier référendum le seuil du 50 % plus 1. Et ne s'est pas dédié nommément, malgré l'intervention de son gouvernement devant la Cour. Mais... au même moment, et c'est pour ça que ce n'est pas académique, le débat que vous soulevez entre la volonté politique, le droit à l'autodétermination, versus le droit strict des États, dans le même mois, ce mois-ci, en Espagne, on a reconnu coupable d'avoir tenu une consultation illégale Artur Mas, qui est le chef des indépendantistes de la Catalogne, qui était le président de la Catalogne à l'époque, et on a suspendu pendant 2 ans son droit d'exercice de fonction publique élective. Mais son successeur, M. Puigdemont, a déclaré qu'il a l'intention de tenir un référendum sur l'indépendance de la Catalogne d'ici le mois de septembre. Alors là, la Constitution de l'Espagne, contrairement à celle du Canada, n'ouvre pas vraiment de porte au départ d'une région de la Catalogne. Et la même journée que la condamnation d'Artur Mas, l'Écosse. La première ministre de l'Écosse a déclaré qu'elle avait l'intention de tenir un autre référendum entre 2018 et 2019. Ça, c'est pas mal plus bientôt que les projets de Jean-François Lisée. Et elle aussi... il y a une loi qui encadre les référendums en Écosse et qui prévoit que le Parlement de Westminster, le Parlement britannique, doit donner son aval à la tenue de ce référendum-là. Et la première ministre de la Grande-Bretagne a dit « il n'y en est pas question, il n'y en aura pas de deuxième référendum ». Alors, c'est un débat théorique, mais qui s'inscrit dans une mouvance qui ne l'est pas du tout. Et on voit dans tous ces endroits-là la même question qui se pose entre le droit des peuples et le droit national.
On va en parler, j'en suis convaincu.
Moi aussi.
Merci Chantal, bonne journée.